musique.
Caravana da Maximum.
Ta gueule, ta
gueule. Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive les oreilles.
Vive.
We'll be right back.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, sur Internet via le site de la Fédération anarchiste ou de Radio Libertaire. Alors aujourd'hui, dans Les Oreilles Libres, nous recevons Jean-Jacques Palix. Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous t'avons reçu le 8 mai 2009. J'ai consulté dans nos archives.
C'est bien, vous êtes ordonné.
Alors oui, à propos, je répète que nous avons un site internet, lesoreillesLibres.free.fr, sur lequel vous pouvez maintenant écouter nos anciennes émissions. Alors, pas encore celle du 8 mai 2009 avec Palix. Tu étais venu à l'époque pour nous parler de Cornelius Cardio, l'exposition Cornelius Cardio et la liberté de l'écoute à Brétigny.
Brétigny-sur-Orge, au centre d'action culturelle, là, au CAC.
Voilà. Et bien, du coup, on avait parlé de cardio, mais pas du tout de ton travail à toi.
Oui.
Et cette lacune va être réparée aujourd'hui, j'espère, bien grandement.
Merci.
J'aimerais que tu nous dises ce qu'on a commencé à écouter.
Ce qu'on vient d'écouter, en fait, c'est un live, une performance live qu'on avait fait au Voot. Donc moi je m'occupais de la partie sonore et il y avait deux plasticiennes, Angie Heng et Sophie Aymon, qui en fait manipulent les objets à travers de la vidéo. Et donc c'est un mix de choses faites, réalisées live avec différents éléments, de l'eau, du sable, des pierres, etc., etc. Plus des choses qui sont déjà travaillées en vidéo. Et donc c'était un mixage des trois couches, quoi. Enfin des deux couches de vidéo. Et du live que je faisais pour les accompagner.
D'accord, c'est un travail récent.
Non, c'est 2011.
2011, voilà.
Oui, il y a quelques années, quoi.
Aujourd'hui, on va quand même... on va parler un petit peu de ce que tu as fait auparavant, mais surtout s'intéresser à ce que tu as fait ces dernières années, hein, et ce que tu fais en ce moment. Alors, composition, musique de film, de chorégraphie, production de programmes radio, de disques, réalisation de films, exposition, intervention dans les écoles d'art, création de labels discographiques, etc.,
oui.
Etc. À coup sûr, la curiosité, le goût de l'expérimentation te caractérise, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui te pousse à aller dans toutes ces directions?
Disons que c'est souvent des rencontres aussi avec comme ça des gens, des opportunités. Par exemple, l'histoire d'être devenu commissaire à un moment donné, commissaire d'exposition. Nous étions trois autour de Cornelius Cardio. C'est simplement la passion de découvrir un petit peu mieux cette personnalité musicale. Moi j'ai un ami qui m'avait offert une partition graphique qui s'appelle Treatise de Cornelius Cardio, et vraiment j'ai commencé à triper dessus, quoi, ou quelque chose comme ça. Et puis mon ami Dean Inkster, qui est historien d'art et très féru de musique, m'a invité pour diriger une pièce de Cardio, qui est une pièce vocale que tu connais, puisque tu as participé à une de ses versions.
Oui.
Et puis c'est parti comme ça. Donc il m'a invité dans une école d'art à Valence pour faire ça. Et puis comme ça, deux, trois ans plus tard, on a rencontré Pierre Balblanc, qui a dit « Mais ok, pour ce projet, il faut faire quelque chose autour de ce monsieur ». Mais bon, ça, c'est un espèce d'endroit de mon travail qui est un peu exceptionnel. C'est-à-dire, j'ai fait ça une fois. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas refaire à un moment donné, comme ça, un commissariat. C'est comme ça qu'on dit en français.
Ouais.
Parce que mon activité principale, c'est quand même de structurer, de sculpter des sons et de composer des musiques pour d'autres artistes qui sont chorégraphes, qui sont cinéastes, documentaristes en général. Enfin, je travaille beaucoup avec le monde du documentaire ou des personnes ou des voix, par exemple.
D'accord. Bon, ton activité principale, c'est la musique. Et alors, nous, on demande souvent, tout le temps presque maintenant, dans l'émission, on aimerait bien savoir quel a été ton parcours, ta formation en général et ta formation musicale en particulier.
Formation musicale, il n'y en a pas. Ça a été sur le tas, quoi.
Hein. D'accord. Ouais.
En réalité, il y en a une, c'est celle d'homme de radio.
Voilà, ouais.
Voilà, et de radio, de ce qu'on appelle la radio magnétique, qui se pratique à France Culture, principalement, qui se pratiquait beaucoup plus il y a 25 ans qu'aujourd'hui. voilà, avec les nuits magnétiques, les ateliers de création radiophonique.
D'accord.
Ouais. Donc la passion du, comment dirais-je, de l'idée de pouvoir mettre en scène,
ouais,
comme un metteur en scène de film ou de théâtre, de mettre en scène du sonore.
Oui, oui.
Alors que ce soit, peut être articulé autour d'un quelque chose de documentaire, c'est-à-dire on fait une enquête sur voilà, un certain endroit, oui, ou de la société ou je sais pas quoi. Mais bon, le travail consiste donc à capturer à la fois des interviews, à la fois du son concret. De, je sais pas, si on interviewe un bûcheron, bah, on va enregistrer l'abattage d'arbres ou enfin je sais pas, quelque chose de son travail. Et puis de la musique, donc, et à mixer tout ça en même temps. Donc je pense que là, effectivement, tout le travail que j'ai pu faire en radio est assez significatif de la suite de mon travail.
Oui, effectivement. Voilà. Donc c'est ça ta formation. Pas de conservatoire, pas d'histoire comme ça, pas de...
Non, absolument rien. J'ai fait un peu de piano
voilà, c'est
au
ça.
Grand désespoir de ma mère qui s'énervait, qui était elle-même pianiste et qui s'énervait à chaque fois qu'elle me faisait travailler quand j'avais 6 ou 7 ans. Donc d'un commun accord, on a décidé d'arrêter au bout d'un an de piano.
Mais tu joues un instrument ?
C'est-à-dire, je dirais plutôt que je non joue de divers instruments.
D'accord.
Voilà. C'est-à-dire que si je prends une guitare et que tu me demandes de jouer un tango ou un blues, je ne saurais pas le faire.
Ouais.
Mais si tu me demandes de produire du sonore, je saurais le faire.
Ouais, ouais.
Voilà. Et ce serait un peu pareil avec d'autres instruments,
ouais,
que j'ai pu pratiquer.
C'est bon. Plus au niveau du montage, c'est ça, concrètement, techniquement.
Non, plus au niveau de la sculpture, je dirais. Mmh. C'est-à-dire, comment tu prends un son, tu le manipules, tu le dénatures, tu l'altères, tu l'étires, ouais, tu l'octavies, enfin, etc.
Ouais,
tu changes sa hauteur et tu le mixes,
ouais,
avec lui-même ou avec un autre son auquel tu auras appliqué un certain nombre de manipulations du même genre.
Ouais. Presque un travail de, on en a parlé beaucoup ces dernières semaines, d'électroacoustique, peut-être.
Oui, c'est ça, on peut dire ça, ouais, comme ça, oui. Mais disons que s'il y avait un des grands-pères dans mon histoire, on pourrait évidemment dire Pierre Schaeffer.
Oui.
Voilà.
Bien sûr. Ouais, ouais.
Ouais. Là, justement, il est à mi-chemin entre la création musicale, enfin, en tout cas, les idées, tout ce qu'il développe, si tu veux, dans sa vie, c'est à mi-chemin entre ça, la musique, la radio.
Ouais. Alors pour autant, on en reparlera tout à l'heure d'un de tes projets, mais on voit dans les compositeurs qui ont compté pour toi, tes influences, un nombre de gens quand même assez différents. Hein. Ça va de la musique contemporaine au krautrock allemand, ou je sais pas moi, à Elvis Presley.
Oui, oui, oui.
Tu as fait un travail sur Elvis Presley, ça j'étais.
Non, j'ai fait un travail sur. Non, tu dois confondre avec autre chose. J'ai fait un travail sur Besame Mucho, par exemple.
Oui, ça, ok.
D'un collectage de différentes versions de Besame Mucho et de production aussi de Besame Mucho. Ah si, oui, maintenant je me souviens, l'histoire de Elvis Presley, effectivement,
ouais,
tu as raison. C'était lors d'une manifestation, c'était la Graceland, la maison d'Elvis,
voilà,
Presley,
ouais,
qui avait,
ouais,
été reconstruite. En filaire, c'est-à-dire avec des tubes,
ouais,
comme les tubes d'échafaudage. Et Marie-Pierre Bognol, qui s'occupe de... Enfin, Julie Tipex, avait invité 4 personnalités à venir jouer de la guitare.
Ouais.
Parce que Elvis Presley, bon, on associe ça à la voix, bien sûr, mais
ouais,
aussi
la
à la guitare. Voilà. Et donc, il y avait eu 4 prestations très différentes. Il y avait un groupe rock psyché. Il y avait le guitariste des Wampas qui a repris des ballades d'Elvis Presley. Enfin bon. Et moi, j'ai non joué d'une guitare électrique,
ah
puisque
oui,
je non joue des instruments.
Ouais, mais bon, ok, Elvis Presley, mais ma question portait sur le grand écart, tu vois, entre Cornelis Cardew, Elvis Presley, Pierre Schaeffer, Kahn, Eric Satie, Karlheinz Stockhausen, Robert Wyatt, Russolo.
Ouais.
Enfin, on a plutôt l'habitude à des chapelles, quoi. Des gens sont très.
C'est-à-dire que hormis Elvis Presley, dans la liste que tu viens de donner. Ce qu'on pourrait dire, ce qui peut peut-être rejoindre les uns et les autres, c'est le caractère un petit peu expérimental de,
ouais,
leur travail.
Mmh.
C'est-à-dire expérimental dans le sens où à chaque fois, ça amène une petite valeur nouvelle,
mmh,
une petite ou une grande d'ailleurs. Hein. Enfin, Pierre Schaeffer, il amène quelque chose d'assez important. Bon, mais voilà, tu vois, Robert Wyatt, bon, Cage, évidemment, on ne sait pas Cage, mais évidemment, il est présent là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la matière sonore.
Ouais.
Donc, les matières sonores que je vais manipuler, mais les matières instrumentales sont des matières sonores aussi. Donc, après, si tu mixes les deux... l'un avec l'autre, et les voix également. Mmh. Donc,
ouais. Enfin, ce qui est étonnant, c'est toi, ton goût pour ces différentes sortes de... ces différentes formes, tu vois, du rock ou à la musique contemporaine, ce qui n'est pas forcément fréquent.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a des périodes aussi, après. Ah oui. Hein, donc, bon, il y a une période de ma vie où j'ai écouté tout Stravinsky non-stop pendant 2 mois. Bon, et puis après, voilà. Mais... en fait, j'ai d'autres goûts musicaux également qui ne sont pas dans les listes que tu viens de donner.
Qui sont pas perceptibles sur ton site internet.
Mais je ne sais pas, par exemple, la musique iranienne classique ou la musique mandingue. Je suis un fan de musique mandingue. Ouais. Et le blues, n'en parlons pas. Voilà, les musiques éthiopiennes pour lesquelles j'ai contribué un peu à leur découverte. Avec Francis Falsetto qui dirige cette collection éthiopique, cette très belle collection de musique des années 70, enfin, notamment.
Ouais.
Voilà. Donc, non, c'est vrai que je suis assez éclectique en matière de musicale. Et j'ai des rayons de disques. Il y a la musique africaine, il y a la musique comme ça, il y a la musique contemporaine. En ce moment, je suis plutôt quand même articulé autour des musiques dites contemporaines, oui, musique, ouais. Voilà.
On va y venir. Mais alors justement, cet éclectisme que nous on aime bien dans notre émission, et c'est pas un hasard, ça correspond à quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses, forcément. Et je voudrais dire quelques mots de ton expérience de création de Radio Nova à l'époque, en 1981, lors de ce qu'on appelle la libération des ondes, hein, parce que moi, j'étais enfant pendant le temps où sur la bande FM, il se passait absolument rien.
Oui.
Ça, je m'en souviens bien. Donc en 80, Mitterrand, enfin c'est son ministre.
Oui. Libère les ondes.
Libère les ondes. Et donc toi, tu es parmi les créateurs de Radio Nova. Tu peux nous expliquer comment tu te retrouves là-dedans?
Oui.
Et comment ça se passe?
Bah, à l'époque, je travaillais à France Culture comme ingénieur du son. Donc je connais un certain nombre de gens, et Andrew Orr et Jean-Marc Fonben, qui étaient des producteurs de l'atelier de création radiophonique, montent ce projet, bon, voilà, qui va démarrer, et moi je suis là et je les connais, enfin je connais un petit peu la bande de gens aussi qui sont et on mixe les premières bandes, enfin je mixe avec eux les toute première bande longue durée, c'était des bandes qui duraient 8 heures en auto-reverse, enfin bon, sur des gros Akai, magnétophone Akai. Et on mixe les 3 ou 4 premières bandes dans les studios de Radio France, puisque c'était au mois d'août, donc c'était l'été. Et puis quand tu es ingénieur du son là-bas, enfin à l'époque en tout cas, tu avais les clés pour rentrer où tu voulais. Donc on avait soigneusement piraté Radio France. Ce qui s'est fait encore plus tard, puisque bon, le projet de Radio Nova, c'était un projet de radio magnétique, c'est-à-dire où on travaille une émission de radio comme on travaille un film.
Ouais.
C'est-à-dire on peut mettre 8 jours pour faire 1 heure d'émission.
Donc,
donc tout ça, ça nécessitait à l'époque de la bande magnétique, des paires de ciseaux, etc., etc. Donc,
le projet était en gestation avant la libération des ondes ou...
Oui, il y a eu la radio verte, en fait, quelques années plus tôt.
Ouais.
Et c'était ces mêmes personnes qui avaient imaginé. Voilà.
Ouais, ouais.
Et donc, l'idée de cette radio, c'était de pousser les expériences au maximum. C'est-à-dire d'appliquer ce qui s'appliquait au niveau esthétique et ce qui s'appliquait aux ateliers de création radiophonique, mais sur, à une échelle de 24 heures sur 24.
Ah, il y allait à fond, quoi.
Ouais. Et puis donc après ça, de réfléchir à c'est quoi les nouvelles idées qu'on peut trouver en matière de radio. Comment on peut changer un peu, altérer des stigmates, etc.
Ton regard sur ce que c'est devenu, pas forcément que Radio Nova, mais la bande FM.
À vrai dire, c'est vrai que depuis que j'ai quitté Radio Nova, j'écoute quand même assez peu la radio. J'écoute un peu France Culture, un peu Nova de temps en temps quand je suis en voiture. C'est-à-dire j'écoute principalement quand je suis en voiture, mais je suis rarement en voiture.
Mmh.
Donc, voilà. Ce que je peux dire, par exemple, de Radio Nova ou même de France Culture, c'est qu'effectivement, avant, il y avait des moyens, il y avait des idées, etc. Que là, tout ça s'endort un peu.
Ah, oui.
On nivelle par le bas, donc y compris France Culture,
ah,
etc.
Oui. France Musique, bon. Oui.
Qui reste quand même une des rares radios encore audibles. Oui, hein. Oui. Mais bon, Radio Nova, moi, j'ai rien à dire. C'est une radio. Maintenant, c'est une radio musicale, principalement, qui n'a plus grand-chose à voir avec les expériences qu'on a pu mener dans cette radio.
C'est sûr, c'est sûr. Un petit mot quand même sur la maison de la radio qui était en feu là tout à l'heure.
Ah oui.
Oui, oui. Je voudrais parler de tes collaborations. Genre, en regardant sur ton site, on va revenir à certains noms. Eve Couturier, bien sûr.
Oui.
Mais certains autres. Il y a une fidélité hein, quand même dans ton travail par rapport à certains musiciens. Bah,
Eve Couturier, c'est ma femme, alors donc
oui.
Voilà, par exemple.
Je pense que le terme de fidélité, voilà. il est bien choisi du coup. Mais je pense à Vincent Segal ou...
Oui, Vincent Segal, c'est vrai qu'on s'est connus il y a fort longtemps, il y a 25 ans ou je ne sais plus exactement. Et on avait monté, c'est-à-dire on a collaboré sur des pièces pour des chorégraphes. Notamment une chorégraphe qui s'appelle Brigitte Farge. Et puis on avait monté ce quatuor qui s'appelait Push Pull avec David Coulter, qui est aussi un ami, qui est un peu plus qu'un ami, quoi, qui fait partie de la famille. C'est les familles, les familles qu'on fabrique, hein, qu'on se fabrique au cours de sa vie. Et Vincent Segal, effectivement, on s'est longtemps plus vu, parce qu'il était très occupé à gauche, à droite, sollicité partout, à faire des tournées, à monter des projets, etc. etc. Et puis là, on s'est retrouvés effectivement l'année dernière. Mais là, dans l'immédiat, je pense que ce qu'on peut écouter, c'est le... On reviendra donc sur Vincent Segal après.
Ouais.
Ce qu'on peut écouter, c'est effectivement un extrait d'une performance que Eve Couturier et moi-même avons fait l'année dernière à Beaubourg dans le cadre du nouveau festival, dans un décor qui s'appelait La Clairière. Enfin bon. Et donc ça s'appelait Indicatif. Et c'était, donc il y avait des textes d'Ève que je faisais la musique avec mon ordinateur et Ève faisait la lecture. Voilà. Et donc on peut écouter un extrait de ça qui s'appelle Orders.
Natural Acts. Acts naturally. Actions don't lie in nature. He acts naturally. Naturally naturalizes. It lies naturally. Naturally it lies in its actions. It's time. We have to go.
Where?
It's time. We have to go. Do I know? The city disappears.
You are.
Longer. I have to go. I have to go. Do not hurt when you will walk with your feet. You are the same. Do you know how much time has passed? That's left. ever seen the double nature of things? When the sun is at high moon and the world in flames, an atrocious voice has spoken. An interesting case. Note, it is. Note this case. Note, it is an interesting case. The glint of a mirror. How the stone shines. What stone? What did he say? Sleep. Lower your eyelids. Don't move. Oh, it takes you away. What if it were gold? Only a corner of the earth is ours. The glint of a mirror. And my mouth is red. Lower your eyelids. The angel of sleep dances on the wall. If he sees your eyes, you will be blind. He shines beneath your fingers. But everything is work under the sun.
Radio Libertaire, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres avec Jean-Jacques Palix. Nous avons commis une erreur.
Oui, j'ai effectivement, il y a eu un petit split. Donc en fait, c'était bien Eve Couturier et moi-même, mais c'était donc pas ce qu'on a fait à Beaubourg l'année dernière. Ça, c'est une performance, mais qui est du même ordre. Hein, c'est-à-dire, ouais. Effectivement, il y a une série de textes que Eve écrit ou emprunte parfois et qu'elle dit. Et moi, j'organise la musique autour de sa lecture. Donc ça s'appelle Fragmentaire. En fait, c'est une performance qu'on a faite en mai dernier en Sicile, à Gibellina. Qui est une ville assez singulière parce que c'est une ville qui a été ruinée en 68 ou 69 par un tremblement de terre, entièrement ruinée, et qui a été reconstruite en fait à 15 km de là, parce qu'il y a les véloroutes qui passaient pas loin, etc., pour des raisons stratégiques, en invitation des architectes tout à fait futuristes et singuliers pour construire cette nouvelle ville. Et également à une fondation d'art contemporain qui a planté des œuvres monumentales partout dans la ville. Donc c'est une ville très très étrange. Ouais. On se croit au milieu du Far West. C'est très très étonnant. La ville est très très bien organisée structurellement, au même titre que Brasilia par exemple. Ouais. Où il y a un vrai dessin, etc. Et donc on a été invité là par un espèce de groupe d'artistes qui s'appelle Lonunpo, ouvroir d'univers potentiel. Ah oui. Donc c'était une bande d'artistes dont ici à Paris on a Samon Takahashi qui est un ami. D'accord, ouais. qui est active avec son amie Claudia, entre autres, ils sont plusieurs, hein. Et donc ils nous avaient invités à venir faire une performance. qu'on a faite dans cette ville, dans une sculpture monumentale qui était en fait une double sculpture. Donc c'est planté là, à côté d'un café, au bord d'une rue. Mmh. C'est un espèce d'endroit clos, ça s'appelle Jardin Secret numéro 2. Et bon, il y a une pièce de Daniel Spoerry et une autre de Mimmo Rotella. Et l'architecte est aussi un architecte connu. Et donc, on était enfermés là, ouais, avec le public. Et on a fait cette lecture-là dont on vient d'entendre un extrait.
D'accord. J'ai vu également que vous aviez fait un film avec F. Couturier, avec le texte de John Cage.
Oui, on a... C'est deux amis qui ont un soir de dîner convivial ont proposé à Eve d'entendre le lecture Nothing de John Cage, dit par Eve. Et donc, voilà, Eve s'est piquée au jeu, a refait une traduction de ce texte en français, parce qu'elle a dit qu'avec son accent anglais, quand même, ça ne serait pas idéal. Et en même temps, donc, elle le traduisait, etc. Moi, j'ai eu l'idée de faire un film autour de ça. Donc, c'est un film de 52 minutes qu'on a appelé Conférence sur rien, puisque c'est la traduction Lecture Nothing. Et bon, c'est un texte assez fondateur quand même dans l'histoire de Cage.
J'aimerais que tu expliques en fait le principe du texte, parce que c'est assez musical finalement. C'est un texte, mais c'est assez musical.
Bah, le texte, il est vraiment écrit comme une partition, hein. C'est-à-dire qu'il y a des espaces entre les mots, il y a des espèces de temps de respiration, etc. C'est divisé en un certain nombre de paragraphes. Y compris un paragraphe où c'est le silence complet, c'est-à-dire il ne se passe rien. Mmh. Et donc, effectivement, au niveau rythmique, il y a une espèce de scansion à trouver. Donc, ça, c'est Eve qui l'a trouvé, hein, puisqu'elle dit ce texte a cappella. Il n'y a pas de musique autour. Et simplement, le film que moi j'ai imaginé autour, c'était parce que c'était d'obsession que j'avais dans la tête, c'était le ciel et puis la couleur blanche.
Oui.
Pardon. Et à cette époque, on était en travaux, justement, dans une petite chambre. Et c'était, effectivement, on était dans les plâtres et tout ça. Et en fait, donc, j'ai filmé du blanc et j'ai filmé le ciel. Et c'est donc tout ça qui constitue l'essentiel des images de ce film, Conférence sur rien. Mmh. Voilà,
on peut en voir un extrait sur Internet. Et au demeurant, on peut voir pas mal de... écouter surtout pas mal de tes œuvres sur ton site, qui est vraiment très bien fait.
Oui.
On peut même faire de la musique. Moi, j'ai passé un quart d'heure hier à faire de la musique avec ton site.
C'est l'ouverture, là, oui.
Et moi, je recommande aux éditeurs d'aller écouter, explorer, parce qu'il y a plein d'ouvertures partout. Ouais. On peut vraiment passer du bon temps à aller voir tout ce que tu as fait et tout ce que tu as mis en ligne. Peut-être on peut parler d'un autre projet, TPNY.
Oui, TPNY, c'est Téhéran, Paris, New York. En fait, le vrai titre, c'est TPNY Memory. Mmh. Donc, c'est un livret qui a été écrit par Leili Dariush, qui est une jeune femme iranienne, mais qui vit à Paris depuis bien longtemps. Et c'est en fait c'est un petit peu comme si c'était le journal d'une jeune femme à qui il arrive pas mal de soucis entre Téhéran, Paris et New York. Mmh. Donc le père biologique qu'on ne trouve pas ou qui est absent, etc. Le mari qui est un junkie, et donc voilà. Et puis la découverte aussi de la liberté, tout ça. Quand on est juste à la fin de l'adolescence, là, 18-20 ans, on part dans les montagnes en Iran, etc., pour faire la fête, fumer des joints, jouer de la guitare, draguer, etc., etc. Et où tout d'un coup, en fait, apparaissent les Basmadji, c'est-à-dire pour venir, qui ne sont pas du tout d'accord avec ça, c'est-à-dire les intégristes. Ouais. Voilà, donc c'est les trois histoires qui sont emmêlées l'une dans l'autre. Ouais. Donc moi j'ai imaginé quelque chose qui ressemble à un opéra, mais c'est pas vraiment un opéra, mais c'est plutôt disons un Hörspiel. Donc il y a trois voix féminines, il y a la voix d'Ève toujours, qui est la narratrice en français, il y a la voix de Niaz Nawab, qui est une jeune iranienne qui vit à Paris, qui fait du piano, etc. Donc elle chante en iranien, enfin en farsi. Et puis Karima Naït, qui est une chanteuse algérienne que j'avais croisée plusieurs fois comme ça amicalement, qui elle fait une version un peu en anglais. Voilà, et puis question instrumentale, j'ai invité mon ami Vincent Segal, voilà, dont tu as parlé tout à l'heure, pour la partie violoncelle. Et puis Carole Robinson, qui joue de la clarinette basse. Et puis moi-même qui fais de l'électronique.
D'accord.
Donc cette pièce a été diffusée en fait aux ACR de Radio France l'année dernière. On a pu donc enregistrer un certain nombre de choses à Radio France. Ouais. Dans le même studio dans lequel j'avais travaillé 20 ans plus tôt. Qui n'avait pas trop changé. Si la console avait changé quand même un petit peu. Okay. Voilà, et donc le TPNY Memory, c'est il y a 8 scènes, ouais. Voilà. Dans le projet initial, il y a beaucoup plus, mais là, on était réduit à 58 minutes, donc on ne pouvait faire que 8 scènes. Et voilà, et celle que je propose d'écouter, c'est donc c'est à New York.
Ouais.
Voilà, on peut l'écouter.
Oui.
برنگرد. به تو میگم برنگرد. یه قدم برو جلو. دو قدم. سه قدم.
Ne te retourne pas.
چهار قدم. شاید.
Ne te retourne
don't
pas.
Look back, don't look back. I say take a step, two, three, four, maybe. Don't look back, don't look back. I say take a step, two, three, four, maybe. Don't look back, don't look back. I say take
pas.
A step, two, three, four, maybe.
Deux.
Don't look back, don't look back.
Trois.
I say take a step, two, three,
quatre.
Four, maybe. Don't look back.
Peut-être. Aucune nuit, je n'ai dormi dans la ville, ville insomniaque qui hurle toujours, ville hélicoptère, machine volante, sirène, ambulance, écrit dégueulante. À l'équerre. Elle me fait chier à mourir, cette ville.
Don't look back, don't look back. I say take a step, two, three, four, maybe. Don't look back, don't look back. I say take a step, two, three, four, maybe. Don't look back. Don't look back. Don't look back. Dreams, illusions, smoke. Time to sterilize.
زمان زیادی در آنجا ماندم.
امنیزی.
زمان فراموشی. گذشته ای پاک شده. فراموشی. فراموشی.
Les buildings baobab encerclent, étouffent, protègent. Alors oui, je suis restée. Je suis restée et j'ai marché comme une damnée. Les avenues, les parcs, les docks, et j'ai regardé les trous, ces putains de trous. Béance, aveugle, intériorité fétide. petites et fades façades carrelées, verre, enduit, structure, acier, chromé, escalier, coulé,
colissons, briques, poudrées. I say take a step, two, three, four, maybe, don't look back, don't look back.
Allez de l'avant.
I run in parks, 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 running towards the future.
Tout ce que je voulais, c'était trouver le cul du monde. Vous comprenez?
I run in parks, parks, parks. I run in parks, parks, parks. I run in parks, parks, parks.
Ne te retourne pas. Ne te retourne pas, je te dis. Pas encore.
Barnagard. Beto migam Barnagard. Yeradam boru jolo.
Un pas. Deux pas. Tenait un café à la main. Il courait avec son café à la main. Tu n'écoutes pas.
Homme,
le café, il ne le buvait pas. Il fonçait dans un gouffre. Les souvenirs sont tracés dans le marbre. Bois ton café. Regarde le fond de la tasse. Tu bois le café infect. T'as sombré, et alors?
Look back, not yet.
Mother.
Jean-Jacques Palix dans Les Oreilles Libres sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Alors nous venons d'écouter TPNY Memories, une pièce narrative.
Oui, une pièce narrative, puisqu'effectivement, ça, donc, ça raconte le destin un petit peu de cette femme d'origine iranienne et qui émigre après en Europe, à Paris, et d'abord à New York, ensuite à Paris. Quand j'ai rencontré Leïli Dariouche, c'était effectivement, donc on a parlé comme ça de choses et d'autres, de musique, et elle m'a dit tiens, j'ai un opéra, et bon, moi ça faisait longtemps que je voulais effectivement essayer un petit peu des choses de ce type-là, avec l'idée de en fait, qu'est-ce qui se passe quand on a plusieurs voix qui raconte des choses. Ouais. Comment on tisse tout ça, comment on arrive à tisser les voilà, ce qui est comme le principe de l'opéra, disons. Hein. Mm-hmm. Voilà, bon, c'est pas une tâche aussi simple qui est qu'on peut le croire, évidemment. Et sur, d'autant que là, je m'attaquais à quelque chose qui était un petit peu, disons, de l'ordre de d'écrire, de composer. Oui. Par avance, qui allait devoir se jouer par les uns et par les autres.
Oui, c'est vrai, on n'est plus dans le montage.
On n'est plus dans l'improvisation, parce que finalement, en fait, par exemple, quand je fais des concerts, c'est souvent en duo avec quelqu'un d'autre, mais ce sont des concerts de nature improvisée.
D'accord,
c'est-à-dire que on travaille auparavant, bien entendu, sur une idée, sur des timbres, sur des structures. On établit un canevas général du concert, mais ça n'est pas écrit dans le sens où... Tandis que là, les choses étaient quand même bien écrites, quoi. Par exemple, notamment toute la partie violoncelle et clarinette. Bon, mais c'est un exercice... que je fais rarement. Ça m'est arrivé de le faire auparavant. Dans les années 90, j'avais fait toute une série de pièces comme ça, instrumentales pour cordes, ou aussi des pièces pour piano, des hommages à Messiaen, en partant de fichiers de sons d'oiseaux. Ouais. Enfin, faire un petit peu ce qu'il a fait, lui, évidemment. Ouais, c'est pas du tout à la hauteur du travail de Messiaen, ce que j'ai fait. Mais c'était plus comme ça, personnellement, de pouvoir rendre hommage à cette idée-là de comment un piano sonne comme un oiseau, etc. Donc, mais voilà, mais quand même, généralement, la composition, elle quand je compose des musiques, c'est pas écrit.
C'est ce que j'allais te demander. Tu me disais que tu n'avais pas de formation conservatoire et tout ça. Donc là, par exemple, les parties de violoncelle ou de clarinette, comment tu
Tu les joues, puis tu crées un fichier MIDI, et puis après, tu arranges les choses que tu veux pas. Et donc après, tu sors une partition maintenant avec l'ordinateur, aisément.
Ouais. Alors, cet opéra donc, a été créé à l'atelier de création radiophonique de Radio France. Et on se dit, en l'écoutant, donc c'est un projet tout à fait récent, donc c'est l'an passé. Est-ce qu'il y aura une version live, quoi ? Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? C'est un petit peu compliqué à monter. C'est-à-dire qu'il nous manque un peu quand même, c'est pour monter une telle chose avec 6 personnes. Ouais. Plus un ingénieur du son, etc. Bon, il faut trouver effectivement des résidences, il faut trouver des subsides, il faut trouver de l'argent, etc. Il faut trouver du temps aussi, parce que quelqu'un comme Vincent Segal, tous d'ailleurs, sont occupés à des choses et d'autres, donc il faut arriver à trouver un temps commun avec tout le monde. Mais oui, pourquoi pas, on n'en a pas rediscuté depuis un an, parce que moi j'étais un peu pris dans d'autres choses. Mais ça pourrait se monter sur scène.
Ça s'y prête en tous les cas. Ouais. J'aimerais qu'on revienne sur un des projets plus anciens de 2007. Le projet 16 minutes 33, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure en parlant de toutes tes influences. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'était que ce projet-là ?
J'étais invité c'était en 2007 effectivement, par un Jacinto Lagera, qui est un historien d'art, critique d'art, etc., a participé à une exposition collective à la galerie Fabienne Leclerc. C'était une exposition qui s'appelait « Du sonore et du visuel », dans laquelle il y avait différents artistes, entre autres Bernard Heitzig, Anne-James Chaton, etc. Mais c'était pas, par exemple, Anne-James Chaton, c'était juste visuel. Donc.
Ah, d'accord.
Ouais. C'était une de ses performances sonores, mais transcrite en visuel. C'était une de ses partitions, en fait. Et donc, à l'époque, j'avais déjà rendu des petits hommages, pour mon propre plaisir, des petits hommages, de courts hommages à quelques compositeurs que j'aimais bien.
Ouais.
Et puis, donc j'avais ça d'une part dans ma besace. Et puis j'avais également une collection de disques qui s'appelait Le Plaisir Musical. C'est une collection des années 60, genre pas cher. Ces pochettes grises, un peu toilées, tu vois, avec une étiquette rectangulaire qui est là juste comme ça, collée. Voilà. Mmh. Et j'adore là, cette matière un peu toilée, etc. On trouve ça dans les vides-greniers. Mais alors, c'était un catalogue où il y avait le Chopin, Mozart, enfin tous les hits, disons, de classiques. Et du coup, invité dans cette exposition, j'ai eu l'idée d'une installation et musique qui consistait donc à accrocher 33 pochettes de ces disques en forme de grand carré. D'ailleurs, ça fait pas un carré, en fait, il y a un petit trou, quoi. Mais voilà. Et chaque pochette étant avec une nouvelle étiquette, donc c'est plus Chopin, Mozart ou Bach, mais c'est Brian Eno, Christian Marclay, Colin Nancarrow, etc. Et donc en fait j'ai créé une série de 33 pièces de 30 secondes qui donc à chaque fois sont un hommage à un compositeur ou enfin, une personnalité musicale que j'aime beaucoup. Et puis je me suis rendu compte que d'ailleurs 33 fois 30 secondes ça faisait 16 minutes 30.
Oui.
3. J'ai triché de 3 secondes parce que le 16 minutes 33 évidemment était un joli hommage à John Cage qui fait partie des artistes de que j'ai
peut-être
que j'ai
tu honoré. Tu peux et nous la donner la liste parce que nos auditeurs les plus fidèles reconnaîtront des noms dont
oui, certainement.
Qu'on a évoqués. Oui.
Donc l'idée, c'est que j'ai inventé les titres aussi.
Ouais.
Et donc les trois quarts des titres sont en fait des extraits d'interviews, des extraits de ce que chacun des compositeurs a pu dire. Quoi. Alors je vais peut-être pas dire tous les titres, mais donc les compositeurs à qui j'ai rendu hommage, donc Brian Eno, Eckhart Ehlers, Eleni Kara-Hindrou, Christian Marclay, Alvin Lucier, Conlon Nancarrow, Marc Ribot, Robert Wyatt, Chelsea, Holger Zukay, Stockhausen, Kagel, Pierre Schaeffer, Ennio Morricone, Robert Ashley, John Cage, Yasuaki Shimizu, Aphex Twin, Alastair Galbraith, Moondog, Ligeti, Russolo, Steve Reich, Ryoji Ikeda, Cornelius Cardew, bien entendu, Einstein Denebauten, Throbin Gristle, Amiel Ballester, Bruce Russell, Perrotin, Tony Conrad, Holger Hiller et Eric Satie.
Peut-être on peut écouter. Donc, alors ces morceaux s'enchaînent. C'est bon.
Donc tout ça s'enchaîne, ça va assez vite. Bon, c'est vrai que c'est quand même toujours. Enfin, pour beaucoup des auditeurs, c'est intéressant d'avoir la liste sous le nez.
Oui, oui.
Parce que. Voilà. Parce que, alors peut-être qu'on on va commencer en fait par Stockhausen. Donc je vais donner les 5 ou 6 premiers noms.
Voilà, oui.
Et puis après aux auditeurs de reconnaître eux-mêmes. N'est-ce pas alors ça va commencer par Stockhausen. Ensuite il y a un hommage à Mauricio Kagel, Pierre Schaeffer, Ennio Morricone, Robert Ashley, John Cage. Puis il y aura quelques-uns en plus.
Voilà,
donc
oui.
je répète hein. Stockhausen, Kagel, Pierre Schaeffer, Ennio Morricone, Robert Ashley, John Cage.
Für 50 Prozent.
especies de artrópodos. Por lo general, más pequeñas. Analizar las víctimas como necesario. Los grillos, las focas, las abejas, los chapulines y las mariposas.
いただきたいと思いまして。
というと？
結婚を許していただきたいと思いまして。
君が？
あ、
節子は知ってるんですか？
あ、ご存知です。こんなことは一応しかるべき方の間に立ってお願いすべきなんですが、時間がありません。
Voilà, avec Moondog pour terminer.
Alors, vous avez évidemment tous reconnu, voilà, donc il y avait « Nous sommes tous des transistors » de Karlheinz Stockhausen. Ouais. Donc il a dit ça un jour, « Nous sommes tous des transistors, les ondes arrivent, nos oreilles les captent. »
Ouais.
Je trouvais ça très joli. Alors donc les hommages qu'on vient d'entendre, c'était Stockhausen, Mauricio Kegel, Pierre Schaeffer, Ennio Morricone, donc le thème n'a aucune importance, ce qui compte c'est le climat. Donc il a dit ça.
Ça aussi. C'est lui qui dit
c'est
ça.
C'est lui d'accord. qui dit ça.
Ah oui, oui, d'accord. Oui.
Après, j'ai fait un petit hommage à Robert Ashley, John Cage, Yasuaki Shimizu, Aphex Twin, Alastair Galbraith et Moondog pour finir. Voilà. Mais bon, en réalité, il y a 33 plages. Là, on en a écouté quelques-unes.
Mais alors, la phrase de Morricone, est-ce que tu la reprends à ton compte, à savoir est-ce que ce qui est important, c'est... On voit bien que tu n'as pas singé, tu vois, Moondog, tu aurais pu faire du 5 temps. Et,
ouais, ouais.
Ce qui compte, est-ce que c'est le climat, vraiment?
C'est vrai que je suis quand même un homme de climat.
Ouais.
Je préfère les climats chauds. Non, pour être sérieux, c'est une des choses qui m'intéresse. C'est-à-dire ouais. que ce sont les à partir, d'ailleurs très souvent, de sons concrets que j'ai pu enregistrer par moi-même ici ou là, de tisser un certain nombre de choses instrumentales et musicales autour, de façon à créer un peu comme un film.
Mmh.
C'est-à-dire que c'est vrai que si tu écoutes ce type de pièce, donc là, c'est pas ce qu'on vient d'écouter. Ce qu'on vient d'écouter, c'est un peu plus composé, etc. Mais ce que je fais en général... ça laisse, si tu fermes les yeux, bon, bah, tu as un film qui se déroule devant toi. Donc c'est ce que les chorégraphes, par exemple, ont trouvé intéressant dans mon cas. C'est-à-dire que je ne suis pas un compositeur dans le sens où je construis une mélodie précise, etc. Mais c'est plus que je balance un climat, une couleur, un état.
Y a des corrélations entre le fait de faire du montage sonore et du montage filmique. Hein. Tu as dit que tu étais venu d'ingénieur du son. Ton rapport à la musique, c'est monter des sons.
Moi, je dis souvent, quand les gens ne me connaissent pas, ils me disent qu'est-ce que vous faites dans la vie, tu sais, dans ces soirées, tu rencontres quelqu'un. Alors, c'est toujours compliqué, parce que si tu dis musicien, évidemment, la réponse de l'autre, ça va être « Ah, de quel instrument tu joues ?» Alors, bon, moi, je joue d'aucun instrument. Alors, si tu dis compositeur, ça fait un peu « Ah bon ?» Tu vois, les gens sont impressionnés, etc. Mais j'aime bien, pour les désarçonner un peu plus, par exemple, dire que je suis sculpteur de son, donc... Je prends les sons de quelque nature qu'ils soient, concrets, instrumentaux, vocaux, etc. Et je fais une salade avec ça. Je mixe tout ça, j'imbrique les sons dans les autres. Voilà.
Le rapport au film, d'ailleurs, ça fait une transition pour te parler d'un truc. La pièce qu'on vient d'écouter, dont on vient d'écouter un extrait, 16 minutes 33, c'est 33, tu rends hommage à 33 compositeurs. Sur ton site, il y a une rubrique 33 idées, 33 mesures à prendre en priorité. Et tu as fait un film également en 2009 qui s'intitule « Ce disque est le même que l'autre ». Et je voudrais savoir si ce... Alors, tu vas peut-être nous dire le principe du film autour du vinyle. Est-ce que ce chiffre 33, ça a un rapport avec le vinyle ? C'est...
33 tours.
Oui, c'est ça.
Oui, clairement.
Donc, tu peux nous expliquer brièvement, après on va passer à autre chose parce que le temps passe, mais moi ça m'a, je l'ai regardé hier, ça, encore un truc à aller picorer là sur ton site. Ce film avec des images de 33 tours dans...
Oui, que j'ai emprunté à des films de long métrage, ouais, de fiction, ouais. Qu'on connaît, des films de Godard, de Truffaut, des uns et des autres. C'était aussi à l'invitation d'une exposition. J'avais imaginé donc faire un dispositif avec quatre écrans, c'est-à-dire qu'il y a les quatre films qui tournent en même temps, et uniquement articulé autour d'images où on voit des gens qui manipulent des tourne-disques. En réalité, les quatre écrans n'ont pas pu avoir lieu parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir quatre écrans, etc. Mais j'ai réalisé ça donc en multi-écran, c'est-à-dire les quatre écrans sont dans l'image. Ouais. Voilà. Mmh. Et dans chaque écran, il y a déjà un travail de mixage de films, donc d'images, et un mixage de son aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont ralenties. Et le mixage final de audio, c'est le mixage de tout l'ensemble. Donc c'est comme les musiques qui tournent sur les disques, hein, sur ces images de films où on voit un tourne-disque. Ça va de petits tangos à des choses que, si elles sont ralenties, ça devient totalement abstrait, etc. Donc le mixage final est une espèce de grand flux sonore. Étonnant. Voilà.
Et cette fascination pour le vinyle, alors ça vient de là, tout ce...
Fascination, c'est un grand mot parce que je n'ai jamais considéré être... c'est-à-dire que moi, j'étais élevé avec les vinyles, bien entendu. Ouais. Dans les années 60, il n'y avait que ça. Hein. Ouais. Je me souviens toujours du premier 45 tours qu'on m'avait offert, que mes parents m'avaient offert. C'était Richard Anthony, je crois.
Ah, c'est Frédéric François, là, tu vois.
Moi, j'ai collecté des disques assez vite quand j'étais ado. Hein. D'abord, j'allais en Angleterre, voir mon correspondant anglais. Donc, je revenais avec les derniers disques des Stones, des M, des Animals, ou je ne sais quoi. Bon, je trouve que c'est quand même un bel objet, le disque.
Ah oui, oui.
Simplement, graphiquement, enfin, comme ça, esthétiquement. C'est beau, c'est le cercle, voilà. Après, donc, j'ai collecté beaucoup de disques dans ma vie. Je possède pas mal de vinyles, effectivement, que j'ai eu la chance d'ailleurs de collecter souvent dans des boutiques en province ou ailleurs à l'étranger, lors de tournées quand j'accompagnais mes chorégraphes et les troupes de danse avec mes musiques. Et puis bon, je suis un passionné de musique, hein. comme on disait au XVIIIe siècle, je suis un dilettante, c'est-à-dire amateur de musique, c'est-à-dire tout est bon. Dès qu'il y a de la musique possible, on prend, tu vois, prend et on en jouit. Alors voilà, bah, après j'ai mes périodes Stravinsky, j'ai mes périodes musique cubaine et puis mes périodes musique contemporaine, où j'ai eu mes périodes rock, blues aussi.
Ah oui.
Enfin, voilà.
Peut-être l'heure tourne. Là. J'aimerais bien qu'on parle d'un de tes derniers projets.
Oui.
Ordon.
Alors Ordon, en fait, c'est la petite lamelle métallique qui est au bout des tuyaux d'orgue et qui permet de régler la hauteur, précisément la hauteur de précise de chaque tuyau. Et Ordon, donc, c'est un projet que je mène avec Benjamin Hamann, qui est un jeune artiste et musicien avec qui j'ai fait déjà 2-3 concerts. Et sur l'idée de... Ben justement, sur l'idée de l'accordage. C'est-à-dire que l'orgue, c'est un instrument totalement accordé. C'est-à-dire, si on appuie sur la touche La, ça va faire un La et ça ne va pas bouger. Donc, pour ce concert, il y avait donc un orgue, un cordet de compagnon, donc c'est un instrument des années 60, italien, très joli design, avec un clavier. Ça ressemble un peu au guitchan qu'on avait dans les écoles avec nos professeurs de musique. Donc c'est un instrument à hanche libre, donc ça sonne comme un accordéon. Et puis Benjamin, lui, il a un Moog et un générateur de fréquences. Et donc l'idée, c'était de voir comment on peut combiner des choses qui sont purement accordées pour aller vers du désaccordage, c'est-à-dire que le Moog, lui, il peut faire du microtonal. Hein. Voilà, et donc on a eu la chance de pouvoir faire un premier concert au mois de juin. On y a pris beaucoup de plaisir. Moi, j'avais jamais touché un orgue de ma vie, mais voilà, maintenant c'est fait. Et on a pu travailler un petit peu la veille avec l'orgue, parce que l'orgue, tu n'as pas ça chez toi, donc tu ne peux pas travailler ça dans le studio. Donc on est vraiment parti avec comme ça une structure un peu conceptuelle, je dirais un peu. Hein. Et puis après, on s'est fait plaisir. Et je crois aussi qu'on a fait plaisir aux auditeurs. Donc ça a été un long concert. Ça a duré plus longtemps que ce qu'on avait prévu initialement. Mais tout le monde avait l'air bien dans un bon état. Donc ça, un long flux tranquille, où il y a de la vraie matière sonore, avec des basses, avec des harmoniques, avec des désharmonies, voilà, et en coinçant des notes sur ou l'orgue ou le cordette compagnon, parce qu'on bougeait donc, du coup. C'est-à-dire l'orgue, c'était soit Benjamin, soit moi qui y étions. Le cordette, on pouvait coincer des notes, après, bon, bref. Un concert un peu comme ça, où on a pu bouger d'endroit.
Peut-être
on écoute un extrait.
Ah ben c'est le mieux, je crois.
Thank you.
comme il était prévisible, l'émission va être trop courte.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, la pièce qu'on vient d'entendre, qui est l'enregistrement du concert qu'on a fait, donc Ordon, ça se développe. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui travaille avec l'écoute, avec des harmonies qui montent. Des différents niveaux de hauteur de notes qui évoluent. Bon, là, effectivement, c'est un peu court pour pouvoir l'apprécier. Mais je souhaite qu'on puisse avoir des nouvelles opportunités pour recommencer ailleurs et voilà, et inviter un peu plus de monde.
Bah oui.
Donc, il y a juste une dernière chose dont je voulais parler rapidement. C'est une collaboration que j'ai pu faire avec Alistair Galbraith qui vient de Nouvelle-Zélande et puis David Watson qui vit à New York. Il y a eu un jour Alistair Galbraith est rentré en contact avec moi, pas avec moi directement mais avec un de mes hétéronymes, c'est-à-dire il savait pas que c'était moi, et puis il a dit tiens, votre travail c'est intéressant, ça serait bien que on... mais je le connaissais, hein, je l'avais rencontré en Nouvelle-Zélande il y a une douzaine d'années, mais lui il savait pas que c'était moi, donc il a dit à l'autre tiens, ça serait bien, en échangeant des sons et on va créer quelque chose ensemble, ce qu'on a fait, puis seulement à la fin que je lui ai fait comprendre que en fait l'autre c'était moi, c'était Palix, donc il a rigolé. Et puis donc j'ai David Watson qui est d'origine néo-zélandaise également, mais qui vit à New York, lui il fait des cornemuses. Donc voilà, on a créé ça, le mieux c'est qu'on on en écoute un peu, donc c'est sorti en vinyle.
Ouais.
Par la station Radar, qui est un petit label qui est situé en province, en Provence, pardon. Voilà, et qui a sorti, donc ça s'appelle Pure Speculation. C'est donc Alistair Galbraith, David Watson et moi-même.
Voilà, notre émission va se terminer. On va faire quelques annonces. À commencer par ce soir, vendredi 31 octobre à 19h30. Projection débat Copier n'est pas volé. Le documentaire Copier n'est pas volé, réalisé par l'association Coagule, s'attache à démontrer que le partage à l'ère du numérique participe à l'enrichissement culturel de chacun. Tout au long du documentaire, différentes personnalités se succèdent pour partager leur opinion sur le partage, la copie, le droit d'auteur ou encore les licences libres. C'est réalisé donc par l'association Coagule. Ça dure une heure. C'est entrée libre ce soir au 145 rue Amelot, la librairie Publico, bien sûr, ce soir à 19h30. Laurent, est-ce que tu veux annoncer les concerts ?
Oui, également ce soir, à l'église Saint-Méry, 76 rue de la Verrie, dans le Marais, donc 4e arrondissement de Paris. Horns, qui réunit Pierre-Antoine Badaou, Bertrand Dinsler, Fidèle Fourneron et Louis Lorrain, que des soufflants, comme vous aurez compris. Donc le Quatuor qui va jouer d'abord, et puis Anthony Pateras qui est un pianiste qui jouera en solo. Donc les rendez-vous contemporains de Saint-Méry, c'est à 20h30 et ça doit être 10 €. Et puis également au centre Fleury Goutte d'Or Barbara, qui est 1 rue Fleury dans le 18e à Barbès, vous avez un concert organisé par le collectif MIR. Les MIRS, justement, le groupe qui est au centre de ce collectif. Et puis, en première partie, Nathalie Plumer, The Conquering Lion. Donc ça, c'est à 20h30 également, et ça doit être 10 € également. Voilà pour ce soir. Je voudrais rappeler également que la semaine prochaine, il y a deux concerts organisés par Umlaut à l'atelier Polonceau Thomas Roudex, c'est 47 rue Polonceau, donc dans le 18e arrondissement de Paris. Le 4 et le 5, donc mercredi et jeudi. Je vous invite à aller sur le site du collectif Umlaut pour avoir plus de détails. La Maison de la Poésie aussi, le 5 novembre, donc le jeudi prochain. Un événement autour d'Edouard Glissant à noter à 20h, et c'est 5 €. La Maison de la Poésie, c'est 157 rue Saint-Martin dans le 3e arrondissement de Paris à côté de Beaubourg.
Il nous aurait fallu plusieurs émissions, faire une saga presque autour de tout ton travail. Jean-Jacques Palix, merci beaucoup d'être passé parmi nous. Avec quoi tu proposes de se quitter avant de laisser la place à nos amis de sortir du colonialisme ?
Une musique très très légère et aérienne que j'avais fait pour un documentaire autour du cinéaste Djurka Medveski. C'est un documentaire autour de ce cinéaste qui était en fait le mari de Bernadette Lafont. Il a fait un film avec Léo et Jean-Pierre Léo et Jean-Pierre Calfont en 69, un film qui s'appelle Paul. Et là, c'était un documentaire sur ce réalisateur qui, a, en fait, après ce film en 69, a quitté le monde du cinéma pour s'installer dans les Cévennes et vivre un peu en ermite, plus ou moins. Bon, voilà. Donc, c'est plutôt la nature. Il se baigne nu dans une retenue d'eau. Il jouit de la nature. Et donc, c'était ça qu'il fallait illustrer.
On va se terminer de manière bucolique, alors.
Voilà, ça s'appelle Djurka Winds. Les vents de Djurka. Et merci.
Merci à toi, Jean-Jacques. Et puis, certainement, une prochaine fois.
Voilà, okay.
La semaine prochaine,
C'est Barbara Safarova et Bruno Decharme qui viendront nous parler de l'exposition qui est actuellement à la d'Art Brut, qui est actuellement à la Maison Rouge.
Qu'on vous encourage à aller voir, et je précise que c'est gratuit pour les chômeurs. Allez, à la semaine prochaine. Salut.
Salut.